Radio Prague Internationale en français, les informations.
Bonjour, merci d'écouter Radio Prague Internationale. Voici les titres. La République tchèque demande au sommet européen de Bruxelles de l'argent pour financer sa transition écologique. La population tchèque continue d'augmenter cette année. En tennis, Petra Kvitova a été une nouvelle fois récompensée pour son fair play. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš participe ces jeudi et vendredi au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Le chef de l'État et de gouvernement vont se pencher sur le Brexit, le prochain budget européen ainsi que sur la politique environnementale. Les États membres devraient s'engager vers la neutralité carbone en 2050. La République tchèque, la Pologne et la Hongrie devraient réclamer à Bruxelles de l'argent pour financer leur transition écologique. La Tchéquie veut aussi parvenir à la neutralité carbone, mais sans nucléaire. « Nous n'y arriverons pas », a déclaré le Premier ministre, appelant Bruxelles à considérer le nucléaire comme une source d'énergie susceptible d'être soutenue par des financements verts. Une position défendue par tous les pays qui utilisent le nucléaire dans leur bouquet énergétique, comme la France, mais à laquelle s'opposent des États comme l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche. À la veille du sommet, Andrej Babiš a également pointé les coûts astronomiques d'une conversion à la neutralité carbone. Les évoluant pour son pays à 26 milliards d'euros. Nous voulons que l'Union européenne en tienne compte, a-t-il déclaré. Les élus de Prague ont approuvé ce jeudi la signature d'un accord de partenariat avec la capitale de Taïwan, Taipei. Le maire de Prague, Zdeněk Hřib, du Parti des Pirates, a souligné que cet accord serait apolitique. Il doit entériner une collaboration dans les domaines économiques, commerciaux et culturels entre les deux villes. La signature devrait avoir lieu en janvier prochain lors de la visite du maire de Taipei, Ko Wen-ye, à Prague. La coopération entre Prague et Taipei avait été lancée en 2001. La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces. En octobre dernier, la ville de Pékin, quant à elle, a rompu l'accord de partenariat existant avec Prague, la Chine étant particulièrement critique de ce qu'elle considère comme une ingérence des élus de Prague dans ses affaires. Les relations tchéco-taïwanaises sont également discutées au plus haut niveau politique. En novembre dernier, le chef de l'État Miloš Zeman a critiqué l'intention du président du Sénat Jaroslav Kubera de se rendre à Taïwan l'année prochaine dans le cadre d'un voyage d'affaires. La population de la République tchèque a augmenté de près de 31 400 personnes depuis le début de 2019 pour atteindre plus de 10 680 000 personnes fin septembre, selon les données publiées ce jeudi par l'Office tchèque des statistiques. À noter qu'en 2018, la République tchèque a enregistré la plus forte augmentation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'immigration, principalement en provenance d'Ukraine et de Slovaquie, qui est la principale raison de cette augmentation de la population. Aussi, au cours des trois premiers trimestres de l'année, le nombre de naissances a été plus important que le total des décès. La plus forte augmentation de la population a été enregistrée à Prague et en Bohême centrale, ainsi que dans la région de Plzeň et en Moravie du Sud, tandis que les régions d'Olomouc, de Karlovy Vary et la Moravie-Silésie ont vu leur nombre d'habitants diminuer. En tennis, Petra Kvitova s'est vue décerner lundi par la WTA le Karen Kranske Sportsmanship Award, prix qui récompense le professionnalisme, l'attitude et le sens du fair play. C'est la huitième fois que la joueuse tchèque de 29 ans, double lauréate de Wimbledon et ancienne numéro 1 mondiale, reçoit cette distinction. Être reconnue par mes pairs pour mon fair play est un honneur, car j'ai toujours voulu traiter mes adversaires avec respect. J'espère inspirer les générations futures à autant aimer le tennis que moi, a dit Petra Kvitova, qui a décroché à ce jour 27 titres, dont 2 cette année. Côté météo, le ciel sera couvert avec des chutes de neige locales. Vendredi, jour de la fête des Lutsiers, les températures seront comprises entre 0 et 4 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková, la suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour
à toutes et à tous, chers auditeurs. Merci à Magdalena Hrozinkova pour son bulletin d'information. Mercredi, 70 ans se sont écoulés depuis le miracle de Tchihosht, dont on ne connaît aujourd'hui toujours pas le mot de la fin. Nous en parlerons en début d'émission. Rendez-vous vendredi pour la 4e édition du Festival amateur de films pour smartphone, un projet original dont nous parlerons leurs deux créateurs. Souvenir ensuite, une fois de plus consacré à la révolution de velours, nous vous proposons cette fois ceux du producteur de cinéma d'origine tchèque Norbert Auerbach à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Bonne écoute de ce programme. Le 11 décembre 1949, dans une petite église de la région de la Vesotchina, un crucifix se serait mis à bouger pendant le sermon du prêtre, le père Joseph Toufar. Ce miracle sert alors de prétexte au régime communiste pour lancer sa répression dans les rangs de l'église catholique. 70 ans après, on ne sait toujours pas véritablement ce qui s'est passé en cette messe de début décembre 1949. Ce sont alors quelques fidèles qui apprennent au prêtre Joseph Toufar qu'un crucifix a bougé sur l'autel. Joseph Toufar s'efforce de les rassurer et veut surtout éviter toute mauvaise publicité qui pourrait lui nuire, comme le rappelle Jan Kalous de l'Institut d'études des régimes totalitaires.
On sám vlastně ani nevěděl, jak přesně by jim to měl interpretovat.
Lui-même ne savait pas exactement comment expliquer aux fidèles ce qui s'était passé. Il demandait conseil à sa hiérarchie, parce qu'il avait peur que cet événement soit instrumentalisé contre l'Église catholique. À l'époque, les relations étaient extrêmement tendues entre l'État et l'Église.
Vyhrocená ve vztahu mezi státem a zejména katolickou církví.
Mais la nouvelle se propage comme une traînée de poudre et le père Toufar est vite accusé par la propagande de manipuler les foules et d'avoir manigancé un faux miracle. L'événement a longtemps été considéré comme une mise en scène préparée par la STB, la police secrète. Interrogé il y a quelques années sur la question avant son décès, Adolf Razek, ancien prisonnier politique devenu après 1989 enquêteur à l'Institut de documentation et d'enquête sur les crimes du communisme, a toujours estimé qu'il n'existait pas de preuves directes.
Nešlo o provokaci STB.
Il ne s'agissait pas d'une provocation de la STB. La STB n'a fait qu'utiliser ce miracle, ou plutôt ce phénomène inexpliqué et inexplicable. L'enquête a démontré que la STB n'a pas du tout participé à la première phase. Par contre, les relations entre l'Église et l'État s'étaient exacerbées au cours de l'été 1949. Il s'agissait pour le régime de mettre en doute les activités de l'Église. C'est à cela que devait servir par la suite le procès avec le père Toufar.
Quoi qu'il en soit, le miracle de Tchihosht va servir à la propagande communiste et permet au régime de lancer ses purges dans l'Église catholique. Celle-ci a encore une forte influence dans les campagnes et peut faire figure de rivale idéologique, sans compter qu'elle représente une source d'opposition potentielle à la collectivisation des terres. Joseph Toufar est arrêté, torturé, employé quelques minutes pour figurer dans un film censé reconstituer l'événement avant d'être remplacé par un agent de la police en raison de sa faiblesse. Il meurt en 1950 d'une infection survenue suite aux sévices endurés lors des interrogatoires musclés de la STB. Si 70 ans plus tard, on n'en sait donc toujours guère plus sur ce miracle, on connaît désormais le lieu du dernier repos du père Toufar. Exhumé d'une fosse commune du cimetière de Diablétse en 2014, sa dépouille a ensuite été authentifiée grâce au travail d'une équipe d'anthropologues avant d'être enterrée le 12 juillet 2015 dans la nef de son église de Tchihosht. Cette exhumation était un préalable nécessaire à tout procès en béatification, qui est désormais l'objectif de la conférence épiscopale tchèque. Entamé en avril 2013, ce procès pourrait prendre encore plusieurs années avant que Joseph Toufar ne puisse être proclamé bienheureux par l'Église catholique. Avis aux passionnés de court-métrage, le smartphone s'invite sur grand écran à Prague. La 4e édition du Festival amateur du film pour smartphone, Some Like It Short, organisé dans la capitale tchèque, se tiendra le temps d'une soirée vendredi 13 décembre au cinéma Bio Oko dans le quartier pragois de Holešovice. Quelques jours avant la tenue de ce festival international, Jordan Joseph est allé à la rencontre de ses deux créateurs, Bruce Chabou et Giuseppe Piceca, qui ont répondu à ses questions au cinéma Bio Oko.
Présenter son propre film dans une salle de cinéma, c'est un rêve de beaucoup de cinéastes amateurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce festival ici à Prague pour smartphone ?
beaucoup de choses, à commencer par le cinéma en lui-même. On s'est rencontrés, Pépé et moi, dans ce cinéma il y a 5 ans. Parce qu'on a un amour pour le cinéma en général, on est assez cinéphiles tous les deux. Et puis il y a cette idée un peu, finalement un peu stupide, qui nous parcourt toujours de créer des événements, de créer des objets qui sont source de dérision en fait. Donc dans notre festival, il y a une idée d'un grand événement autour de quelque chose de petit et d'amateur. C'est pour ça qu'il s'appelle Some Like It Short, une référence à un grand film de Billy Wilder. Et en même temps, We Like It Short. On n'aime pas quand c'est trop pompeux, etc.
Peut-être que parfois on peut en dire beaucoup plus avec beaucoup moins.
Bah, je crois que c'est pas vraiment ça. Je crois que la question pour moi ou pour nous, c'est la possibilité que chacun a de s'exprimer, de produire quelque chose avec sa créativité. Il n'est pas facile pour quelqu'un de produire une pellicule, de faire du cinéma. Pour nous, c'est pas vraiment de créer un message différent, mais de créer un niveau pour faciliter la création, la créativité de l'agent. Et ça, c'est spécial. Chez Bruce, on a invité souvent des amis à faire une petite vidéo et après on va choisir les meilleurs. Et on a découvert que la créativité qu'il va... Non, la puissance de sa créativité, elle était incroyable. Non, elle était un addiction. Comment dire en français addiction?
Ouais,
une addiction. Ouais, c'est pas difficile, sa langue. Hein.
Et en même temps, c'est vrai que dans l'idée d'amateurisme dans l'art, c'est toujours bien d'avoir un format assez petit, assez étroit quand on commence. Dans la littérature, dans le cinéma en général, on dit souvent les premiers films sont trop longs, on veut toujours en dire trop. Et c'est vrai que l'idée de faire quelque chose d'amateur mais à un format petit, c'est aussi avoir la garantie qu'on ne va pas souffrir parce qu'un film mauvais, très long, est très 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 long.
Parce que la règle de festival, c'est bien sûr que tous les films sont faits avec le smartphone, mais aussi qu'on ne veut pas... Il y a un maximum de 6 minutes 17 secondes. Bruce, tu veux expliquer pourquoi c'est les limites là?
Parce qu'on n'a jamais vraiment eu de raison. T'es vraiment... On a juste mis 6 minutes 17 secondes et on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie de nos règles.
Les films sont en tchèque et en anglais. Il y a une dimension du coup internationale au festival. Est-ce que vous pensez que le court-métrage, on a parlé de créativité, c'est aussi un moyen de fédérer les gens autour de l'humour, des émotions?
Ouais, effectivement, on est tous les deux, des expats à Prague, un Italien, un Français. Nos amis sont tchèques, slovaques et j'en passe. Voilà, français. Donc on a autour de nous une communauté, disons, d'expats intégrés dans la République tchèque, dans Prague, dans un cinéma où on connaît un peu tout le monde parce qu'on y boit énormément. Nos amis s'exportent puisqu'ils sont expats, donc ils repartent, ils rencontrent d'autres gens, donc ils dispersent un peu l'événement. Pour le prochain festival, nous avons des films qui viennent de Berlin, un film produit par un Pakistanais vivant au Japon, un ami d'origine de Jordanie qui nous envoie son film. Enfin, c'est vraiment un vrai festival international.
Mais aussi, il est connecté à Prague. Et alors, tous les films, les sous-titres en tchèque, la présentation de tous les films, elle est à la traduction en tchèque. Nous avons une interprète.
Une interprète de très haut niveau, Petra Merchikova. Qui est en fait un petit peu la troisième pièce de notre puzzle parce qu'elle joue une partie très très importante dans le festival.
Dernièrement, Martin Scorsese a parlé de son nouveau film The Irishman en demandant à son public de ne pas le regarder sur un smartphone. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du cinéma sur smartphone?
En même temps, The Irishman, il est produit par Netflix, donc ça ouvre une deuxième discussion sur la production et la dispersion.
J'étais vraiment en train de dire ça, ouais.
C'est ton sujet, non. C'est le sujet de la politique.
Oui, mais parce qu'il y a... OK, il faut clarifier ça. Moi et Bruce et tous les gens de Some Like It Short, on aime le cinéma vraiment. On aime le cinéma dans le cinéma. On n'aime pas le cinéma dans la maison, de l'ordinateur. On n'aime pas beaucoup Netflix, HBO et tout la nouvelle, non, la puissance de ces nouveaux marchés du cinéma. Et avec notre film des smartphones, on ne veut pas faire une tentative de substitution, ouais, de changer ça. Hein. Le film professionnel, pour nous, c'est très important. On ne veut jamais penser que notre film va être plus ou moins dans le même niveau. Et bien sûr, on a sûrement envie de amuser et de libérer sa créativité. Mais ce sont deux choses vraiment différentes. On fait des pellicules de mauvaise qualité pour se rire, pour rire ensemble, et c'est ça. Il faut avoir cette attraction à être plus protagoniste dans le cinéma. Je voudrais bien l'audience de notre festival est bien souvent dans ces cinémas, dans les autres cinémas de Prague, et ne regarde pas trop des vidéos online, des pellicules sur le petit écran de l'ordinateur. Ça marche?
En fait,
je ne peux pas être trop anti-Netflix, j'ai bien envie de l'être.
En fait, c'est toute la démarche. Et ce qui est intéressant pour moi dans notre festival, c'est que tout en étant un objet, comme je le disais au début, un peu de dérision, pas forcément très sérieux, on l'organise comme un événement assez drôle. Les téléphones portables sont souvent utilisés de façon individuelle, chacun sur son petit écran. Moi, je suis arrivé en tram, chacun est sur son écran, il n'y a pas vraiment de partage avec cet outil. Et tout d'un coup, on se trouve à Bioco, comme on le sera le vendredi prochain. Et y a quelqu'un qui est en face de nous, qui a fait un film, qui est prêt à nous en parler. Et voilà, c'est pas Martin Scorsese, mais c'est quelqu'un qui a fait ça avec son cœur ou avec son humour, avec tout ce qu'il a. On n'est pas Scorsese, mais on commence à savoir ce que c'est qu'un travelling. On apprend, on est forcé d'apprendre un petit peu.
Ouais, de toute façon, il y a le mec du Pakistan qui nous envoie le petit vidéo de Japon, et cette vidéo va être dans l'écran du cinéma. Mais The Irishman, non. Et alors, qui a gagné, hein?
Ce 12 décembre marque le 10e anniversaire de la mort de Norbert Auerbach, l'occasion pour Radio Prague International de rediffuser un extrait de l'entretien accordé en 2006 par cet homme au parcours hors du commun. Fils d'un producteur de cinéma de l'âge d'or de Barrandov, devenu lui-même président de United Artists après avoir combattu les nazis sous l'uniforme américain, Norbert Auerbach a également été aux premières loges pour assister à la révolution de velours en 1989. Quelques mois plus tôt, il était rentré à Prague au chevet d'un de ses amis d'enfance gravement malade. Alexis Rosenzweig l'a rencontré en 2006 donc.
Chapitre de l'histoire.
L'été 89, je suis venu à Prague seulement pour... Je n'avais pas l'intention de rester à ce moment-là. Et la révolution s'est passée d'ailleurs très, 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 très tranquillement, même que moi je dis aux Tchèques qu'ils n'avaient pas une révolution, mais une évolution, à part de quelques incidents qui étaient graves, mais qui n'étaient pas très graves. Ça s'est passé... très calmement. J'ai passé une grande partie de mon temps, si vous voulez parler directement, mêlé de cette évolution, révolution, en voyageant entre la France et la Tchécoslovaquie. J'ai fait imprimer les étiquettes qui avaient le petit homme, bonhomme qui riait pour le Optionske Forum.
C'était le logo qui ressemble à un smiley, on pourrait dire.
Forum. Le logo était imprimé à Nice.
À vos frais?
À mes frais. Et je portais ça et je livrais ça à la Optionske Forum. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques ni l'argent de fabriquer ça d'une manière correcte comme c'était fait. En plus, j'amenais de la couleur pour les machines Xerox pour qu'ils puissent
pour le photocopieur.
Et ça au fond, c'était l'activité où j'ai assisté, si vous voulez, directement. Je me rencontrais avec les gens du Optionske Forum, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. C'était pas à ma place un revenu qui était regardé quand même un peu avec pas beaucoup de sympathie, voilà, que les gens disaient maintenant qu'on est tout d'un coup libre, vous venez nous aider, vous nous voir, où est-ce que vous étiez pendant les temps difficiles. Donc il fallait rester discret. Après la Révolution plus tard, naturellement, j'ai rencontré Havel et beaucoup de gens de la ODS. Mais je ne suis pas un homme qui s'intéresse beaucoup à la politique. Et les hommes politiques, pour moi, sont aussi non sympathiques que les acteurs et actrices, parce qu'ils sont ils sont faux, ils font des promesses, qu'ils ne tiennent pas. Ils disent ce qui leur plaît au moment où on leur parle, et c'est oublié. Ils oublient au fond en République tchèque et partout dans le monde, très souvent, une grande partie des hommes politiques oublient qu'ils sont des serviteurs du peuple et pour le bien du peuple, pas pour leur bénéfice propre.
Vous parliez de la difficulté pour les exilés revenus. Beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont essayé de revenir ou qui sont revenus, m'ont dit que le retour d'exil était particulièrement difficile à Prague. Alors, vous êtes ici depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi ?
Oui, mais comme je disais, j'ai rencontré plusieurs fois, et je rencontre toujours encore, une attitude où on dit « qu'est-ce que tu nous racontes ? Tu étais en Amérique, tu étais en France, on souffrait sous le communisme ». Et c'est un peu, très souvent, je trouve que c'est un mécanisme défensif, parce que beaucoup de gens ne souffraient pas. Ils venaient une vie assez normale. Bon, il n'y avait pas cette grande liberté avec un L capital, mais ils avaient à manger, ils avaient à habiter, ils avaient un travail. C'est un peu comme en Allemagne pendant la guerre, quand on libérait les Allemands, quand on venait en Allemagne et on rencontrait les Allemands, il y avait pas de nazis. Donc maintenant en République tchèque ou en Tchécoslovaquie, personne n'était communiste, et si on était communiste, c'est parce qu'absolument on était forcé. Donc il y a beaucoup de faux là-dedans.
Et combien est-ce que vous avez de passeports aujourd'hui ?
Moi, j'ai seulement deux passeports. J'ai un passeport tchèque et un passeport américain. Et le passeport tchèque est presque un accident, parce que j'avais même pas demandé le passeport tchèque, mais sous une loi qui a été passée, ou un décret qui a été passé, les Tchécoslovaques, les gens de nationalité tchécoslovaque, qui avaient acquis une autre nationalité pendant le temps que la Tchécoslovaquie étaient en état de guerre avec l'Allemagne, ne perdaient pas leur nationalité tchécoslovaque. C'est comme ça que j'avais jamais perdu la nationalité tchécoslovaque qui m'est restée.
Vous avez quatre fils avec deux épouses différentes. Est-ce qu'ils parlent tchèque ?
Non, ils ne parlent pas du tout. Ils parlent... Il y a deux avec ma femme qui était autrichienne, leur première langue était le français. Donc ils parlent français parce qu'ils étaient tous les deux nés à Paris. Et les deux autres, avec la femme américaine, sont nés à Londres. Ils parlent seulement anglais, tandis que le Lederhosen Gang, comme je les appelle, naturellement parle allemand et anglais.
Pour terminer, on peut dire que si vous parlez aussi bien le français aujourd'hui, c'est peut-être d'abord parce que vous avez acquis les bases au lycée français de Prague.
Absolument. Bon, comme je l'explique un peu, mon père, qui ne parlait aucune langue, voyait déjà à ce moment-là, ce qui était assez surprenant, ou assez exceptionnel à ce moment-là, la nécessité de parler des langues. Donc nous, comme enfants, nous étions au lycée français, ma sœur est née au lycée allemand, mais on était élevés avec tchèque, allemand, français, anglais, et après italien, espagnol, portugais, etc., etc. Les quatre premières langues sont les plus difficiles, après ça marche tout seul.
Est-ce que vous gardez une certaine nostalgie de cette époque, de la Prague, de la Première République tchécoslovaque?
Non, c'était tout à fait un autre temps, un autre âge. Je me rends compte maintenant qu'on vivait dans une vie extrêmement luxueuse qui n'a plus jamais été répliquée, malgré que mon père avait du succès aux États-Unis. Mais c'est des souvenirs que j'exagère probablement dans ma tête. Et comme je dis, on ne se rendait pas compte. Donc je ne peux pas dire que ça manque ou que j'y pense avec regret.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague Internationale. Merci de l'avoir suivi. La suite de l'actualité tchèque en français, c'est sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller consulter notre page Facebook ou encore notre compte Twitter pour plus d'informations. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy !